Est-ce que vous avez vos Bibles? Montrez-moi vos Bibles. Bible. Amen, amen, amen. C'est important. Merci Seigneur pour la technique. Merci Seigneur pour le vidéoprojecteur. Merci Seigneur pour nos versions papier de la Bible, au travers de laquelle nous pouvons découvrir encore la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais faire suite à notre thème qui, je pense, donc, a été placé sur notre cœur pour cette année en particulier. C'est le thème de la sanctification. Et il y a quelques dimanches de cela, nous avions parlé de la sanctification du corps. Permettez-moi ce matin de parler cette fois-ci de la sanctification de notre âme. Aujourd'hui, il y a eu au moins un amen. Mais on parlera quand même de cela, hein, même s'il y avait un seul amen. Car je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions marcher de sanctification en sanctification. Vous savez, vous connaissez ce passage mieux que moi-même. Il nous a dit, sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et pas question pour moi, parce que je devrais rendre compte, mais de commencer à bien donner des messages qui pourraient flatter à bien le corps, mais qui ne soient pas des choses qui vont nous permettre d'aller de l'avant et d'être fin prêt parce que le Seigneur, il est à la porte. Alors, en introduction, je reprends ce verset qu'on a pris donc, la dernière fois lorsqu'on a traité sur la sanctification du corps, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 et 24, un texte en introduction. Je vous laisse le temps de chercher. Et j'entends le bruit des feuilles et c'est bon signe. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 23 et 24, il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui nous a appelés est fidèle. Mieux encore, c'est lui qui le fera. C'est pour ça que nous comptons sur lui. C'est pour ça que nous avons besoin d'être plus que jamais dépendants de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu donc désire que notre âme soit également sanctifiée au même titre que notre corps, comme nous l'avions partagé la dernière fois. Voyez-vous, le problème, et je veux juste le donner en introduction, il y a des personnes qui ne croient pas du tout en l'existence de l'âme, en l'existence de l'âme humaine. Pourtant, la Bible est claire, elle nous rappelle que l'homme, il a été créé en deux phases, et on peut relire ces choses dans Genèse chapitre 2, verset 7, très rapidement, Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il y a une autre version qui dit « et il devient une âme vivante ». Il y a donc deux parties, deux phases pour la création de chacun d'entre nous, en tout cas pour la création de nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu a pris de la poussière de la terre et a formé l'homme. Ça devait être magnifique. Il n'y a que Dieu qui était capable et en mesure de faire ces choses. On le sait, les scientifiques aujourd'hui reconnaissent, et ça, c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Les scientifiques reconnaissent que le corps humain est composé de 26 éléments chimiques que l'on retrouve sur la croûte terrestre. On est tiré de la terre. Mais la deuxième partie, la deuxième phase de la création de l'homme, on la retrouve dans cette deuxième partie de ce verset 7. La Bible dit « Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. » Et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Et c'est cette autre partie que l'on appelle l'âme. Une partie qui est immatérielle, une partie qui est éternelle. Celle qui est donc composée non seulement de l'âme, mais aussi de l'esprit. Alors c'est difficilement dissociable, mais pourtant ce sont deux parties bien distinctes. L'âme et l'esprit. Si bien que quelque part nous formons trois parties. Notre être est formé de trois parties, corps, âme et esprit. Et c'est en cela qu'on a d'ailleurs été créé à la ressemblance de Dieu. Bon, les gens ils pensent que c'est sur le plan physique qu'on a été créé à la ressemblance de Dieu, mais on a tout faux. Puisque de toute façon, la Bible dit « Dieu est esprit ». Dieu n'a pas de corps physique. On a été créé effectivement dans cette trois dimensions. On reconnaît un Dieu qui est unique, mais par contre qui se présente en trois personnes distinctes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. la même manière, eh bien, nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Alors, entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'âme? Finalement, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est le souffle de vie, on vient de le voir, en chaque être vivant, celle qui nous permet de vivre, celle qui nous permet finalement d'exister. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vient à mourir, qu'est-ce qu'on dit? Un peu cher, il a rendu l'âme. C'est pas vrai? D'où elle vient cette expression? Elle vient de la vérité de la parole de Dieu. L'âme, c'est aussi eh bien, ce qui va définir eh bien, tout ce qui peut être le ciel de nos sentiments, de nos émotions. C'est aussi là eh bien, que eh bien, se déclenchent les volontés, les désirs. L'âme est ce qui nous rend conscients de nous-mêmes. Et contrairement au corps, l'âme est immortelle, je l'ai dit tout à l'heure, si bien qu'après la mort du corps, l'âme retourne à Dieu, son créateur, mais aussi son propriétaire. Et ça, peut-être qu'il faut le souligner. Dieu est non seulement le créateur de notre âme, mais aussi eh bien, le légitime propriétaire de chacune de nos âmes. C'est pas moi qui le dis, c'est entre autres Ézéchiel chapitre 18 et le verset 4 qui l'affirme. « Voici, toutes les âmes sont à moi, dit Dieu par la bouche de son prophète Ézéchiel. Toutes les âmes sont à moi. » Je ne sais pas combien nous sommes, mais autant de personnes que nous sommes ce matin, il y a autant d'âmes qui appartiennent à Dieu ce matin. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quelqu'un pourrait me dire, mais attends, mais Joël, tu viens de dire que l'âme ne mourra pas. Mais il faut comprendre qu'ici n'est pas fait mention d'une mort physique, mais bel et bien d'une mort spirituelle. La Bible parle bel et bien d'une seconde mort, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu. Un lieu où l'âme, eh bien, qui ne s'est pas repentie, se retrouvera dans un lieu de perdition éternelle. Voilà. De quelle mort il est fait mention ici. Mais, béni soit Dieu, Dieu ne veut pas que notre âme aille eh bien, souffrir éternellement dans ce lieu, d'ailleurs qui au départ était préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu, son désir, c'est que notre âme, non seulement puisse connaître le bonheur des ici-bas, mais puisse eh bien, demeurer éternellement dans ce lieu de gloire qu'il a préparé pour ceux et celles qui se seront attachés à lui. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus est venu ici bas sur cette terre. On arrive bientôt à ce week-end de Pâques. Et des gens vont sortir les œufs, d'autres vont chercher les cloches, etc. Mais nous, on ne veut pas déroger de ce qui est pour nous la véritable signification de la Pâques. Dieu lui-même est venu en chair.
Amen.
Il a pris ma place et la vôtre. Et tout cela parce que il y a notre âme avec du prix à ses yeux. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, ne le cherchez pas, Luc chapitre 9, verset 56, le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais au contraire, pour les sauver, que Dieu soit béni. Ça, c'était juste l'introduction. Il fallait que je passe par cela, eh bien, pour entrer dans le vif du sujet. Il faut donc revenir à notre partage aujourd'hui et rappeler que Dieu désire que notre âme soit sanctifiée. Alors on le sait, maintenant, puisqu'on a partagé la dernière fois la sanctification du corps, que veut dire eh bien, sanctifier, le verbe sanctifier eh bien, veut dire ni plus ni moins se séparer, se mettre à part pour Dieu. Mais se sanctifier, c'est aussi eh bien, se séparer de toute forme de souillure. Et Dieu désire que notre âme soit séparée de tout élément eh bien, qui pourrait le souiller, la souiller. Aussi, je vous propose de voir trois éléments qui pourraient souiller l'âme humaine. Trois éléments que nous devons rejeter dans nos vies. Trois éléments que nous devons combattre les uns et les autres. Est-ce que vous voulez les connaître, les découvrir? Ah, ça m'encourage. Premier élément. Ce sont, ni plus ni moins, les mauvais sentiments de l'âme. Dieu sait combien notre âme, l'âme humaine, peut être souillée par toutes sortes de mauvais sentiments. Et sur mes notes, j'ai mis là quelques exemples pour nous aider à rendre ce message beaucoup plus concret. Eh bien, par exemple, la rancœur. La rancœur est quelque chose qui est nuisible à notre âme. Et Dieu a besoin de séparer nos âmes de toute forme de rancœur. Les plus subtiles, les plus cachées au plus profond de nos cœurs. La haine, l'amertume, j'ai entendu la méchanceté. On aurait pu parler aussi des phobies, de ces peurs qui sont nuisibles pour nous. Il y a des bonnes peurs, mais il y a aussi des peurs qui sont nuisibles. Et il y a la jalousie, Il y a quoi d'autre encore? La colère, l'envie, l'orgueil, la vengeance. Et tous ces mauvais sentiments, on le sait très bien, ne nous laissent jamais en paix. Autrement dit, je peux venir même ce matin, oui, peut-être lever les mains, tout ça, comme on a entendu dans un annonce spirituel ce matin, mais si mon cœur n'est pas libéré de ces éléments, de ces mauvais sentiments, je ne suis pas pleinement en paix. Et mon Dieu ne peut pas agréer pleinement à bien mon sacrifice. Je veux juste prendre un exemple. Moi, j'aime quand les messages sont pleinement concrets. On prend un exemple parmi ceux qu'on vient de désigner. On prend par exemple l'amertume. L'amertume. C'est comme un mélange. J'ai envie de dire un cocktail de découragement, de rancœur, de colère et même de souffrance. Et qui souvent est comme déclenché par soit un échec, une désillusion, une injustice. On a été contrarié. Et alors l'amertume vient s'installer. Une mauvaise nouvelle. Et voilà, on est là, on n'est plus le même. On est agité, on manque de paix. Vous savez, mes amis, lorsque l'amertume vient nous gagner, je me pose la question avec vous, que ne sommes-nous pas capables de faire? Eh bien, voyez-vous, lorsque l'amertume s'est pleinement installée dans une âme, nous pouvons peut-être commettre l'irréversible. Regardez ce qu'il est dit, je vais partager un petit peu vendredi soir lors de la réunion d'évangélisation, 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Je donne des exemples, il faut que ça soit concret, il faut que ça nous parle, il faut que la Bible nous réveille et nous interpelle ce matin. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Mais pourquoi parlait-il de le lapider? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais grâce à Dieu, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et là, les pierres sont tombées des mains et Dieu a bien intervenu. Mais parce que le peuple avait de l'amertume dans l'âme, ils étaient prêts à pouvoir lapider celui qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Certains, à cause de l'amertume, tentent d'oublier leurs souffrances. Et ils le font en utilisant toutes sortes de vices, de passions. Frères et sœurs, ne jugeons jamais ces personnes qui sont dépendantes, des choses qui finalement les détruisent. C'est quelquefois, bien quelque part, des choses qui vont leur permettre d'oublier ce qui peut être douloureux dans leur cœur, une amertume qui est là. Et on le voit par exemple quand Salomon dira, Proverbes chapitre 31, verset 6, prenez donc des notes de tous ces versets, et vous pouvez relier toutes ces choses. Il nous est dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et certaines personnes, comme pour oublier ce qui est une véritable souffrance, pour oublier leur amertume, alors ils s'adonnent soit à la boisson ou d'autres vices qui au final les détruisent. Certains même n'ont même plus goût à la vie. Et c'est Job, pas rien, un homme de Dieu pour son temps. Il va dire dans Job, chapitre 10, verset 1, « Mon âme est dégoûté de la vie. Je donnerai cours à ma plainte et je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Arriver à être même dégoûté de la vie à cause de cette amertume qui est là et qui, subtilement, nous rouge de l'intérieur. Oh, ça ne se voit pas. On peut avoir un sourire gentil, mais intérieurement, quelque chose, un processus qui ne vient pas de Dieu, vous l'avez compris, mais qui est là et qui sape toute l'œuvre rédemptrice de Christ au-dedans de nous. Par contre, il fallait mettre ce par contre, il y a dans la Bible tellement d'autres exemples de personnes qui, même l'amertume dans l'âme, ont bien réagi. Et il y a une femme, en l'occurrence, qui, l'amertume dans l'âme, a choisi de prier Dieu. De qui veux-je faire mention ce matin? Anne, me dit René. Tu as raison, mon frère. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, Anne, femme d'Elkana, pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle qui versait des pleurs devant les hommes, qui gémissait devant les hommes, a compris à bien qu'elle avait tout intérêt à pouvoir verser des larmes devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. D'ailleurs, le Dieu qui est capable d'entendre la voix de nos larmes. Elle choisit de pouvoir prier, et c'est ça qui est beau. Elle pria Dieu. On est capable, dans l'amertume dans l'âme, de pouvoir prier Dieu. Et de prier jusqu'à ce que le Seigneur y intervienne. Prier avec foi. Non pas en levant le poing contre Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Vous savez, la Bible dit, tout, mais tout est sanctifié par la prière et par la parole. Et ça rejoint le don spirituel qu'on a entendu ce matin. Quand je vous ai dit, arrête de te nourrir de toutes sortes de choses qui sont nuisibles pour toi, mais plonge et regarde la parole de Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, consciemment ou inconsciemment, je suis sanctifié, je suis mis à part. Même mes amertumes se changent eh bien, en quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Et de la même façon, lorsque je rentre dans la prière, je suis la malade, eh bien, avec toutes ces choses intérieures, entre autres ces amertumes, eh bien, je viens dans le secret de ma chambre et dans la prière, je dis, Seigneur, je veux que tu interviennes dans ma situation. Croyez-moi, le Seigneur, il intervient. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, tout comme Anne, décide d'abandonner l'amertume qui te ronge l'intérieur. Moi, je suis convaincu d'une chose, Dieu ne parle jamais en vain. Et croyez-moi, des oppositions, il y en a quelquefois, eh bien, pour m'empêcher de prononcer les paroles du Seigneur. Mais je suis convaincu que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire.
Amen.
Et en fait, je bénis le Seigneur pour eh bien, les dons spirituels qui se manifestent parmi nous. Et comprenez qu'à un moment donné, lors d'un don spirituel, il a été dit, Dieu veut te parler d'une manière spéciale ce matin. Écoute ma parole. On finit par s'habituer aux prédications. Et puis en dehors, c'est le pasteur, ça va. Et Dieu parle tant d'une manière dont on dit autre. Les solutions, il l'a déjà données depuis longtemps. Mais qu'en faisons-nous? Laisse Dieu s'occuper de ton problème. Car vois-tu, rien n'est impossible à Dieu. Allez, on arrête avec ce premier élément. On va un peu plus vite. Autre élément qui pourrait être nuisible à notre âme et que Dieu aimerait évidemment sanctifier au-dedans de nous, au niveau de notre âme, ce sont les blessures. Mais pas n'importe lesquelles. Les blessures non soignées de notre âme. L'âme de l'homme peut être malade et même souffrante à cause de blessures qui lui ont été infligées. Et voyez-vous, une blessure qui est non soignée peut être préjudiciable pour celui qui la possède, mais j'ai envie de dire pour aussi, eh bien, même pour eh bien, les personnes qui pourraient entourer cette personne blessée. Et blessé avec des blessures non soignées. Essayez de vivre avec une personne dont la blessure n'a pas été soignée. Je vous souhaite bien du courage. C'est tellement important de laisser le Seigneur bien nous soigner de l'intérieur, de tout ce passé négatif qui peut encore continuer à influencer nos vies, nos cœurs. Certains ont le cœur qui a été comme piétiné, écrasé par autrui ou par les circonstances de la vie. Ces blessures sont comme des détresses intérieures. Oui, c'est bien le mot, des détresses intérieures. Et elles produisent alors toutes sortes de symptômes. Mais voyez-vous la bonne nouvelle? Je voudrais vous partager ce matin. Jésus, c'est non seulement le médecin du corps, mais c'est aussi le médecin de l'âme. Il guérit les maladies physiques. Mais il y a des maladies de l'âme. Il y a même dans le corps de Christ des personnes qui sont malades. On vient tel que nous sommes au Seigneur, et le Seigneur, dans sa grâce, nous donne son salut. Mais il a besoin encore de nous aider à bien enlever autour de nous, qui nous enlace, qui nous emprisonne, à bien tous ces bandages. Vous savez, quand Jésus, par une parole créatrice, par une parole toute-puissante, a demandé à ce que la pierre soit roulée, et a demandé à ce que Lazare sorte, Lazare est sorti. Mais il a demandé aux hommes de délier le pauvre Lazare qui était empêché d'avancer pleinement. Dieu veut libérer ton cœur de tous ces bandages qui t'empêchent bien d'être pleinement épanoui. Jésus, le médecin du corps et de l'âme, est parfaitement en mesure de nous guérir. Jésus guérit l'âme, il guérit le cœur, il guérit le corps, il guérit eh bien, toute blessure émotionnelle. Jésus, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4 et verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé, entre autres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Mais voyez-vous, encore faut-il qu'on le désire. Encore faut-il que nous le voulions. Je vous donne un exemple. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, le verset 15, regardez avec moi ce qui est écrit. C'est dit plus, dis-moi, c'est une prophétie. prophétie qui correspond à ce qui s'est passé après la naissance du Seigneur Jésus. Hérode a demandé, a dépêché ses soldats pour aller tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem, mais aussi aux environs. Et Rama, et ni plus ni moins, Bethléem, mais aussi tous les alentours, toute la banlieue de Bethléem. Ainsi parle l'Éternel, regardez ce qu'il est écrit. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. C'est ça qui est dramatique. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, douloureuses, difficiles dans nos vies. Des choses qui nous donnent même à trébucher et même à continuer à boiter encore aujourd'hui. Et le Seigneur se propose de nous apporter la consolation dont on a besoin, se propose même de guérir nos âmes en profondeur. Et tout comme Rachel, nous le refusons. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Et vous avez compris le parallèle et la manière poétique que le prophète Jérémie exprime ce verset 15. Pourquoi il parle de Rachel? Rachel est l'une des femmes de Jacob. Les descendants de Rachel se trouvaient à Bethléem et à Rama. Et on voit dans l'évangile selon saint Matthieu le rappel de cette prophétie après le massacre de tous ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Vous savez, il faut, et je l'ai dit, laisser le Seigneur soigner nos blessures. Mais je me rends compte que certains, ou certaines, refusent d'être soignés de leurs blessures. D'autres même vont utiliser leurs blessures comme une arme. Ou comme un prétexte, un passe-droit. Écoute, j'ai connu ça, j'ai été blessé de ceci, cela, alors voilà, je peux me permettre ceci ou cela. D'autres l'utilisent comme une croix, qu'ils croient devoir porter toute leur vie. Mais à nouveau, ce que Jésus te propose, c'est non seulement de te soigner, une fois pour toutes, de ta blessure, mais aussi que tu puisses avancer. Et que tu puisses même littéralement courir dans la carrière qui t'est ouverte. Amen. Vous savez, s'il y a eu des blessures dans notre passé, que cela puisse servir à être finalement en retour une bénédiction pour les autres. Amen. Tu es capable de faire ces choses. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer le passé de toute façon. Mais ce passé, croyez-moi, et même ces blessures, ces cicatrices que vous pouvez avoir au plus profond de vous-même, peut, Dieu, par sa puissance, peut maintenant les utiliser pour être une bénédiction aux autres. Mais encore faut-il que nous le désirions. En parlant de blessures, Jésus a connu des blessures. Quelles blessures il n'a pas connues? Il était flagellé. Les blessures, il a même gardé quelques cicatrices dans ses mains et dans ses pieds. Même son côté a été violemment percé par par le fer et donc de cette lance. Il a eu, alléluia, des blessures. Et il a encore les cicatrices de ces mêmes blessures. Mais voyez-vous, ces cicatrices sont pour nous un sujet de gloire aujourd'hui, un sujet de bénédiction, une preuve indéfectible de l'amour de notre Dieu à notre égard. Quand je vois les mains de Jésus, je vois le triomphe de celui qui a même bravé la mort, pour vous, comme pour moi-même, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Viens Jésus et demande-lui de te guérir. Mon frère, ma soeur, tu perds du temps. Et tu n'as pas compris que l'ennemi voudrait que tu regardes, excuse-moi, peut-être ta blessure, pour t'empêcher de regarder le vrai but atteindre. Il y a tellement d'âmes qui se meurent. Dieu change le mal en bien. Et il est capable de te guérir. Et te donner à bien avoir un commencement, un départ tout à fait nouveau avec lui. C'est David qui a dit dans le psaume 41 et le verset 5, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Car j'ai péché contre toi, etc., etc. » Que ce soit ta prière ce matin, elle est très courte, « Seigneur, guéris mon âme. » Et pardonne-moi quand j'ai gardé quelques bagages. Je veux que tu sois libre, que tu sois assez léger. Alléluia, pour pouvoir courir dans la carrière, sans t'alourdir. Et on a entendu au travers d'une prière, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Allez, j'ai parlé de 3 éléments. On a vu ensemble qu'il fallait déposer les mauvais sentiments, les rejeter de nos cœurs, on vient de voir qu'il y a des blessures, je précise, non soignées de notre âme, que nous devons abandonner et confier entre les mains du Seigneur. Et si maintenant on parlait des convoitises de l'âme. Pour terminer, je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais pour ce matin, restons sur ce troisième et dernier élément, les convoitises de l'âme. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 11 nous dit la chose suivante. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Faut-il rappeler qu'à cause de notre nature pécheresse, même si nous sommes bel et bien sauvés ce matin, et gloire à Dieu, à cause de cette nature pécheresse, nous avons tous les uns et les autres des convoitises, des passions que nous devons tenir en bride, frères et sœurs. Est-ce que nous comprenons ces choses? Et tant que nous serons ici-bas, nous devrons, avec l'assistance du Saint-Esprit, veiller à ce que notre vieille nature puisse être toujours maintenue crucifiée avec le Seigneur Jésus sur la croix. C'est notre combat. Et un combat de chaque jour. Et il y a cet autre exemple dans Jacques chapitre 4. Allez, on va faire un petit peu de lecture. Jacques chapitre 4 du verset 1 à 3. Jacques qui s'interroge. Et il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Je fais en français quoi? D'où viennent les luttes et d'où viennent les disputes, les querelles, au sein d'une église locale? C'est ça qu'il dit là. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En fait, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Quand on dit vous êtes meurtrier, ça ne veut pas dire forcément, ça ne renvoie pas forcément à quelqu'un qui aurait tué une autre personne. Parce que quand on lit l'épître de Jean, il nous dit, on est meurtrier si on n'aime pas son frère ou sa sœur. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Mais il va plus loin. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans quel but? Dans le but de satisfaire vos passions. Et on y revient. Jacques donc parle des envies égoïstes de notre chair. Mais Jacques parle aussi des demandes que nous formulons à Dieu, mais qui sont motivées par de mauvais désirs. C'est bien, c'est pas un péché d'avoir des désirs. Des envies, c'est pas un péché en soi. Mais les mauvaises envies, les mauvais désirs, ça, il faut s'en séparer pleinement. Je prends des exemples, parce que je veux que ça soit concret. Obtenir une fonction au sein de l'Église, juste pour être reconnu ou pour se réaliser. Les gens, consciemment ou même inconsciemment, c'est la quête qu'ils recherchent. Mais tu le vois, ça. Tu le vois. Et puis, de toute façon, l'apôtre Paul a dit, après tout, que la parole de Dieu soit prêchée de tout notre cœur, ou bien, par esprit de dispute, elle n'est pas moins prêchée. Mais à un moment donné, il faudra comparer devant Dieu. Et là, comme un scanner, on passera tous. Pour ça que, au-delà de ce que nous pourrions faire, ce qui est important, c'est le cœur. Dans quelle disposition de cœur nous le faisons? Obtenir quelques dons spirituels pour un profit personnel, ou pour en mettre plein la vue aux autres? Et que Dieu y voit les cœurs. Avec quelques-uns, on a continué les cours bibliques de manière particulière, au fond, et on s'est attardé sur les dons spirituels. Et on comprend bien pourquoi il est dit dans l'Épître aux Corinthiens que le Seigneur, il donne à qui il veut, comme il veut. Heureusement. On a un exemple, je voulais aussi vous laisser, c'est dans Actes chapitre 8. Acte chapitre 8, du verset 18 à 21. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un réveil, littéralement, on peut le dire, sur la région de Samarie. Un homme a été envoyé, un certain Philippe, puisqu'il était au départ un diacre, un jeune, un simple chrétien, poussé par le Saint-Esprit, annoncé l'évangile et une merveilleuse conversion. Et plusieurs se sont convertis, entre autres Simon, le magicien, qui jusqu'alors impressionnait tout le monde par sa magie. Mais il a abandonné tout ça parce qu'il a vu que la puissance du Saint-Esprit était beaucoup plus grande. Et Simon, tout comme les autres, s'est fait baptiser. Mais la Bible nous dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, qu'est-ce qu'il fit? Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive également le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que moi je suis clair et net sur ça. Dieu ne se joue jamais de personne. Et si quelquefois, eh bien, les choses sont bloquées, il y a peut-être examen de notre conscience ou de notre cœur, ou même de notre âme. C'est-à-dire où j'en suis. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Et quand on a compris comme ça, on arrête de se cacher et on est vrai devant le Seigneur. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Simon, l'ancien magicien de Samarie, celui qui était baptisé, celui qui était aussi chrétien comme les autres, ne voulait pas tant le Saint-Esprit pour être un témoin de Jésus. Parce que si on veut être baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'on est un témoin de Jésus. Hein. C'est pas se rendre conforme comme les autres. Ben, je ne comprends pas. Tous les chrétiens sont par la langue et pas moi. Simon voulait le Saint-Esprit juste pour son profit personnel, le pouvoir, et pour en mettre plein la vue aux autres. Voici là encore, peut-être le mal que nous devons combattre et que Dieu aimerait nous aider à ôter de nos vies. Nous comprenons ce que Dieu veut nous dire ce matin, frères et sœurs.
Amen.
Je veux conclure, je ne veux pas être long. Nous venons de voir trois éléments qui peuvent souiller et nuire notre âme. Les mauvais sentiments, les blessures non soignées et les convoitises, ou même passions coupables. Ce sont autant d'éléments que nous devons rejeter de nos vies, et que nous devons également combattre avec virulence. Et dans ce combat, Dieu se propose de nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit donc d'implorer le secours de Dieu. Autrement, frères et sœurs, nous rachèterons pas le temps, nous perdrons du temps. Tout comme le peuple dans le désert, nous tournerons dans le désert. Pourtant, Canaan était si près d'eux. Mais Dieu, eh bien, il convenait avec que ce peuple soit sanctifié dans le désert pour que ceux qui passent de l'autre bord, Canaan est pour nous l'image de la cité céleste, eh bien, puissent être fin prêts pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Canaan, l'image est pour nous l'image des bénédictions, de la réponse même à une prière. Mais pour cela, il faut bien que dans le désert, tu puisses te dépouiller et mourir à toi-même et laisser Dieu enfin te dépouiller de tout ce qui n'est pas bien à sa gloire. Juste un dernier passage et puis après on va prier. Psaume chapitre 116, les versets 3 à 8. On a commencé par un verset, terminons par un autre passage. C'est le psalmiste, on ne sait pas exactement, qui a écrit le psaume 116. J'ai dit, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et retrouve notre prière à formuler ce matin. Sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et c'est exactement ce que tu veux faire en ces instants. Baissons la tête, fermons les yeux, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons entendu ta volonté. C'est de pouvoir encore continuer à sanctifier nos vies, nos cœurs. Et tu nous as parlé, Seigneur, la dernière fois, de la sanctification du corps. Aujourd'hui, tu nous parles de notre âme parce qu'elle est chère à tes yeux, chère à ton cœur. Et tu voudrais, Seigneur Père, mon Dieu, que cette âme soit, Seigneur, transformée en l'image de notre Sauveur Jésus-Christ et qu'elle vive éternellement en ta présence. Pour cela, ce matin, tu désignes, tu dévoiles tout ce qui peut être encore des éléments nuisibles dans nos cœurs, dans nos vies. Et tels des enfants, avec une grande simplicité, avec vérité, nous voudrions laisser ta lumière venir pénétrer et chasser toute forme de ténèbres dans nos vies. Tu savais exactement qui serait là ce matin. Et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu nous parles, c'est toujours pour nous faire du bien, pour nous sauver, pour nous délivrer, jamais pour nous accuser. Et ta douceur, ton amour, viens au devant de chacun et chacune ce matin. Mais tu parles à nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît toutes choses. Celui devant lequel on ne peut rien cacher. Seigneur mon Dieu, tu pointes du doigt au nom de Jésus-Christ tout ce qui a besoin d'être rectifié dans nos cœurs et dans nos vies. Et s'il y avait quelque amertume ce matin, s'il y avait quelques blessures non soignées, s'il y avait aussi, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur Père éternel, oh Père mon Dieu, toutes ces choses nuisibles comme les convoitises, les Seigneur Père, les envies, les passions, Seigneur Père coupable, je te prie de purifier, de sanctifier. À toi toute la gloire, Jésus. Viens dans les derniers, les yeux fermés.